Vous avez souvent évoqué dans cet entretien filmé, mais aussi dans d'autres entretiens, l'importance quasi vitale de la littérature à vos yeux. Et j'aimerais bien qu'on revienne dans cette première question sur le lien qu'on peut faire entre lire, écrire et vivre, sur la manière dont les trois circulent et coexistent. Et j'aimerais bien vous demander dans cette première question, est-ce qu'il y a des lectures qui ont informé votre vision de l'existence, qui ont eu un impact sur votre manière de penser et peut-être même sur votre manière de vivre?
Alors, j'en profite pour réparer une maladresse de ma part. C'est dire un mot sur la réalisation de ce film. Céline Gaungou mérite bien sûr toutes mes félicitations. Elle est vôtre, sans vous faire violence. Parce que elle a fait un travail remarquable. Vous remarquerez qu'on ne la voit jamais poser les questions. Et bon, ça fait partie de sa personnalité. Mais la réalisation de ce film a demandé de nombreuses heures, beaucoup plus que le temps passé à le voir. Et bon, bien sûr, je suis partie prenante dans l'affaire. Et je ne suis peut-être pas objectif, mais je trouve que c'est un travail remarquable. Et je voudrais pas vous gêner de ce point de vue, mais bravo, bravo, bravo. Alors, maintenant, le problème de la relation, de la vie, etc. J'ai peur, je ne voudrais pas me répéter par rapport à ce que j'ai eu à dire dans le film. Moi, pour moi, la vie, l'écriture, la vie, la littérature est essentielle. Je crois que, même avec toutes les avancées technologiques qu'il y a, les gens auront toujours besoin de lire ou de se référer aux grands textes. Ces grands textes qui reviennent quelquefois à travers des chansons de variété, simplement. Je pense que Brassens met en musique Villon, par exemple, ou Léo Ferré, Aragon. Mais j'ai peur. J'ai peur à l'heure actuelle que les grands lecteurs que nous sommes, a priori ceux qui sont dans cette salle, nous devenions des ovnis. C'est-à-dire que les gens ne comprennent pas qu'on s'isole pour lire. Et moi, je le vois avec mes petits-enfants, par exemple. Il y en a qui sont à l'université, etc., et qui ne lisent presque pas. Et moi, qui suis un lecteur, je ne sais pas trouver les termes pour les convaincre de lire. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai peur qu'en Afrique, notamment, qu'on fasse le saut de la tradition orale aux dernières technologies et qu'on ne lise pas. Maintenant, il y a des phénomènes qui peuvent se produire, par exemple. Pour être honnête, à part, il y a eu, dès mon enfance, des livres qui ont parsemé ma vie, mais j'étais pas un lecteur vraiment. J'ai commencé à devenir lecteur à un moment au lycée, avec la rencontre d'un condisciple. qui était... Alors, il connaissait Proust par cœur. J'étais en première, lui, il était en terminale. Et c'est en discutant avec lui, par exemple, que j'ai eu le goût de la lecture. Parce que ce que je lisais pendant longtemps, c'était les magazines sportifs. Il y avait à l'époque Miroir, Sprint et Buté Club. Je sais pas si quelqu'un d'entre vous ont connu ça. Et moi, j'étais un érudit, parce que je lisais tout, je savais tout ce qui se passait dans le sport, etc. Et quand j'ai rencontré ce condisciple auquel je faisais allusion tout à l'heure, eh bien, j'ai décidé de ne plus lire la littérature sportive et de la remplacer parce que j'avais trouvé la vie. J'avais trouvé la vie dans une discussion avec un... C'est, voyez-vous, un condisciple et d'autres amis, des congénères, qui m'ont plus emmené à la lecture que les professeurs. Par la suite, bien sûr, j'ai eu des professeurs. Mais le premier déclic, ça a été dans la vie. Alors, bon, je dis dans le désordre, je crains que la littérature perde de son influence, c'est certain. Quand j'étais étudiant, le livre était plus répandu, les revues étaient plus lues. Aujourd'hui, les revues ont disparu pratiquement. Celles qui subsistent, c'est grâce à des subventions, vraiment. Et les gens lisent moins à cause de ça. Avant, dans le métro, vous voyez des gens qui lisaient. Quand je suis débarqué en France en 1949, ce qui m'avait frappé, c'était que les gens dans le métro, j'arrive la nuit, je débarque vers la gare de Lyon, à Paris, j'entre pour la première fois de ma vie dans le métro. Et je vois que les gens en Afrique, où tout le monde, quand on se rencontre, on se dit bonjour, qu'on se connaisse ou pas. Et là, dans le métro, les gens ne s'occupaient pas des autres. Ils avaient le nez dans le journal ou dans des livres. Et quand j'étais en Union soviétique, alors là, ça a été à l'époque en Union soviétique, les gens lisaient en marchant, sans doute parce que le régime était extrêmement dur, et c'est tout ce qui leur restait pour et oxygéner leur vie. Et aujourd'hui, j'ai peur. Alors bref, vous alliez dans la salle d'attente du médecin, les gens patientaient en lisant. Aujourd'hui, ils sortent immédiatement, à commencer par moi quelquefois, leur smartphone pour regarder leur message. Et tout ce temps, au fond, on lisait parce qu'on s'ennuyait. Et la lecture meublait votre ennui. Et je me souviens qu'alors en Afrique, en brousse, dans ma famille, d'une époque où je lisais les dictionnaires, parce que j'avais l'impression d'apprendre beaucoup de choses, d'apprendre un monde, non pas pour l'école, mais pour satisfaire ma curiosité. Alors aujourd'hui, je crois, alors il y a des mouvements, par exemple Daniel Salnave de l'Académie française a un projet, je me souviens plus du détail, mais pour que emmener les gens à lire. Et peut-être que les seuls qui lisent à l'heure actuelle, ce sont les croyants. Ils lisent les livres saints, etc. En Afrique, c'est remarquable en ce moment comment les gens lisent la Bible, les évangiles, etc. Et ils vous les envoient même, justement, à travers des messages de smartphone.
Et Henri, j'aimerais bien qu'on prolonge cette réflexion sur la lecture, mais en évoquant davantage l'écriture, et peut-être est-ce qu'on pourrait revenir sur ce que vous avez appelé dans le film, par un terme très fort, le rituel de l'écriture. Et sur la manière dont, alors vous évoquiez, quand vous travaillez en dehors de votre bibliothèque, finalement, j'ai noté cette expression, vos écrits sont comme des brouillons de brouillons. Et vous dites justement que, une fois que vous vous retrouvez dans l'espace de la bibliothèque, il y a une sorte de phénomène, vous employez le nom magie, il y a une forme de magie qui s'opère et le rituel de l'écriture se met en marche. Il y a les livres qui vous entourent. Vous évoquiez le smartphone, mais il peut avoir aussi une autre fonction. Pour vous, c'est une sorte aussi de petite bibliothèque une sorte de petite encyclopédie de la littérature. On voit que vous collectez des citations que vous lisez de temps en temps. Et ce que je voulais vous demander, c'est de quelle manière les textes que vous consultez dans votre bibliothèque, ou alors les textes dont vous vous rappelez, c'est peut-être aussi un phénomène de remémoration, de quelle manière ces textes consultés ou remémorés agissent-ils sur votre travail d'écriture ?
J'aurais tendance à dire que c'est une évidence, que c'est une espèce d'action réciproque, que, bon, peut-être qu'en vieillissant aussi, les choses différencient. Je me demande maintenant si j'ai encore quelque chose à écrire. Et j'ai tendance, avec l'âge, à vouloir lire ce que je n'ai pas lu et que j'aurais dû lire et relire ce que j'ai lu et que j'ai aimé mais que j'ai pas pu retenir par cœur. Et donc c'est le dilemme dans lequel je me trouve. Mais pour répondre peut-être plus simplement, je crois qu'il faut lire non pas pour imiter les grands auteurs qu'on aime, mais pour se mettre dans une ambiance. Et quelquefois, je vois chez des écrivains qu'ils n'ont pas lu. Il faut lire et oublier, mais en même temps, si on n'a pas lu, c'est rare qu'on puisse être fécond dans son écriture. Ou bien, c'est une écriture qui manque de muscles.
Et je pense à différents dispositifs. Quand on lit vos romans, il y a différents dispositifs que vous mettez en œuvre qui diffractent un peu la bibliothèque. Je pense par exemple aux épigraphes, les citations parfois que vous utilisez et que vous mettez en exergue. Je pense aussi à des titres, par exemple votre roman La Nouvelle Romance. Ce titre évoque un roman d'Aragon, hein, Les Cloches de Bâle. On pourrait aussi parler d'Ulysse et le Flamboyant. On avait fait un entretien sur l'Ulysse et le Flamboyant, où le thème du double, les jeunes miroirs peuvent également faire songer à Aragon. Il y a l'itinéraire aussi de votre héroïne, Colélé, qui n'est pas sans faire songer à André Bloin. André Bloin.
Ah, oui.
Et son autobiographie. Et je voulais vous demander, ces dispositifs qui sont très complexes, nombreux, qui varient d'un roman à l'autre, est-ce que c'est l'amorce d'un jeu d'un dialogue avec le lecteur, ou est-ce que c'est un plaisir que vous vous réservez à vous seul au moment de l'écriture? Qu'est-ce que... Peut-être les deux.
Les deux, je ne sépare pas les deux. C'est-à-dire que quand j'écris, je suis en état de jubilation. Et d'autre part, je pense à mon lecteur. Pas au même moment. Quand j'écris, je suis égoïste, je m'amuse moi-même, je me moque des lecteurs. Mais quand je me relis, je me dis, est-ce que le lecteur ne va pas s'ennuyer là? Est-ce qu'il ne va pas trouver que là c'est trop savant? Voyez, donc il y a ce dialogue, votre question c'était.
Est-ce que finalement tous ces dispositifs, c'est un plaisir que vous vous faites, de l'ordre de la création au moment où vous écrivez, ou alors est-ce qu'il y a déjà une sorte de dialogue, vous évoquiez, il y avait le mot dialogue dans l'entretien filmé, est-ce que c'est un dialogue, voire un jeu, des pièges peut-être aussi que vous tendez parfois au lecteur, qui ne décryptera pas forcément
Je crois que l'écrivain a toujours tendance à écrire à la limite pour lui-même. Mais il ne faut jamais oublier le lecteur. Parce que sans le lecteur, nous n'existons pas. Que ce soit le lecteur immédiat, le lecteur d'ailleurs, ou le lecteur d'un autre temps. Mais si il existait un monde, une île, où on est seul, je ne sais pas si on écrirait. Ou si on écrit, c'est parce que on est coupé du monde et qu'on veut retrouver le monde. L'écriture est un langage, et le langage, c'est l'acte le plus social qui est. C'est si on n'était pas en société, on n'aurait pas besoin de communiquer. Mais le roman, la poésie, la littérature, c'est plus que de la communication. La communication, c'est le journalisme. Or, dans l'écriture romanesque, il y a une part d'irréel et de monde imaginaire. Alors il y a des degrés suivant les auteurs dans le plongeon qu'ils font dans l'imaginaire. Mais il y a un minimum. Si on ne veut pas rester dans le récit journalistique.
Et justement, pour prolonger cette réflexion qui est vraiment l'un des fils conducteurs de votre œuvre, le rapport entre l'imaginaire et le réel, on voit dans le film, donc il y a votre bibliothèque littéraire, si je puis dire, mais il y a également tout un pan qui est consacré aux sciences humaines. Vous évoquez des sociologues, on voit également, quand on lit vos romans ou quand on lit Il est déjà demain, des références à des anthropologues, à des historiens. Et je voulais vous demander dans quelle mesure cette partie de votre bibliothèque, toutes les lectures que vous avez pu faire, par exemple dans Il est déjà demain, j'ai noté quelques noms, Georges Balandier, Édouard Perrois, L'Ulysse et le flamboyant, il y a un passage où on a l'impression que vous évoquez avec beaucoup d'ironie un essai de Thérèse Moucoury intitulé Les couples dominos, mais je pourrais en citer beaucoup d'autres. Dans quelle mesure cette bibliothèque-là, où se côtoient anthropologues, sociologues, dans quelle mesure y a-t-il un lien quel lien on peut faire entre ces lectures et votre projet littéraire? Comment ça s'articule?
Dans le roman, la poésie, on essaye d'appréhender le monde au sens, c'est-à-dire de le comprendre. Et la compréhension du monde, elle passe par le chant, l'art romanesque, mais elle suppose aussi la connaissance, la compréhension scientifique, qu'il s'agisse de sciences dures ou de sciences douces, comme on les appelle. Et moi, j'ai besoin de cela. Je veux comprendre, essayer de comprendre le monde que je ne comprends pas, que je comprends de moins en moins. Mais je me dis toujours, peut-être que ceux qui seront étudiés, qui ont cherché, ont quelque chose à m'apprendre, peut-être simplement une idée, une seule phrase. Et donc je ne veux pas m'en priver.
Est-ce qu'il a pu arriver dans certains de vos écrits, dans certains de vos projets, qu'il y ait à un moment ou un autre, pendant la phase d'écriture ou avant, qu'il y ait même peut-être des phases de recherche où l'écriture se nourrit d'elle-même et ces phases de recherche-là n'ont peut-être pas existé?
Oui, non. Il y a des moments où on a besoin de se documenter. C'est d'ailleurs un mouvement qui dans la littérature française contemporaine est très grand. Les gens réécrivent l'histoire dans des romans. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse. Mais de toute la documentation que vous ramassez, quelquefois, c'est pour retenir une seule phrase. Et je pense qu'il faut oublier. Il faut pas se charger. Il faut faire un travail d'investigation, mais ne pas le charrier brutalement dans votre roman. Il faut passer ça par l'étamine de votre sensibilité.
Et j'aimerais bien qu'on aborde une extension de votre bibliothèque, ou peut-être est-ce une bibliothèque à elle seule. J'aimerais bien qu'on parle de la musique, de votre discothèque et du rôle que joue la musique dans votre écriture. Vous évoquez souvent, et il sera question de musique cet après-midi, vous évoquez souvent différents styles musicaux, différentes géographies musicales, différentes influences. Comment agit la musique sur votre écriture? Est-ce que vous pourriez en parler un peu?
Alors, c'est assez paradoxal parce que il y a des gens, par exemple, quand ils écrivent, même quand ils lisent, ils ont besoin d'écouter de la musique, d'avoir, il leur faut, cette ambiance. Moi, non. Je pense qu'il faut choisir où on écoute la musique, où on travaille. Je suis un dogmatique sur ce plan. Mais en même temps, c'est difficile à exprimer. La musique est inséparable de l'écriture. J'étais avec un ami il y a quelques jours, qui est un écrivain aussi, et on parlait de certains grands livres que nous n'arrivons pas, lui et moi, à lire. Ne le répétez pas. Mais par exemple, j'arrive pas à lire Salman Rushdie. Je n'arrive pas à lire une très grande romancière. C'est Toni Morrison. je m'endors. Il me manque quelque chose. Il manque quelque chose en moi pour rentrer. Je ne dis pas que ce sont de mauvais écrivains, mais ils ont, pour moi, il faut qu'il y ait une certaine musicalité dans l'écriture. Il faut que je sois bercé par les mots. Et les poètes, bien sûr, sont ceux qui réussissent le mieux là-dessus. Mais je pense qu'il y a des écrivains aussi. Et je voudrais le faire. Alors, vu sous un autre angle, par le petit bout de la lorgnette, vous le savez puisque je vous ai fait lire mon manuscrit qui est chez l'éditeur à l'heure actuelle, qui est en retard dû au coronavirus parce que les programmations sont toutes reportées. Mais dans Petit Mao, alors là, j'ai fait un hommage à la musique congolaise, à la rumba. Et c'est une histoire d'un milicien. Mais un milicien, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais il est dans une atmosphère. C'est-à-dire que même ces gens qui avaient des kalachnikovs, à l'époque où il y avait des milices au Congo dans les années 60, eh bien, eux, ils avaient leur musique. C'était pas Bach, c'était pas Beethoven, c'était pas Mozart, mais c'était la rumba congolaise. Ça faisait partie d'eux. Et je rends un hommage dans Petit Mao à tout ce monde. D'ailleurs, il y a un personnage à un moment qui dit que au lieu de donner des chiffres aux années, il vaudrait mieux leur donner le nom du succès de l'année, que ça serait beaucoup plus agréable, plus beau. Je sais pas si j'ai répondu.
Je vous remercie, Henri. Je vais peut-être passer la parole à la salle. Il nous reste environ un quart d'heure pour élargir un peu les questions.
Okay. Enfin, c'est un peu compliqué pour moi parce que moi, je vous ai lu, vous m'avez accompagné durant tout mon parcours scolaire. Enfin, au lycée, où on avait au programme le pleurer-rire. Et moi, tout lycéen que j'étais, j'ai couru après tous les écrivains qui étaient encore au pays, au Congo. Et je me souviens, il y avait une table ronde avec Jean-Blaise Bilombo-Samba, et vous étiez aussi, vous faisiez partie du panel. Et après, j'ai dû découvrir d'autres écrivains et j'ai dû aussi me faire une certaine conscience politique de la situation du Congo. Et c'est un peu comme l'image que vous avez expliquée dans le film que vous avez lorsque vous voyez des bouquins de Senghor en raison de ses liens avec la France. Et moi, j'ai eu presque la même sensation, en fait, en tous les ans. Et autant je n'ai jamais... Autant l'écrivain m'a toujours plu, que j'ai toujours lu, autant l'homme politique qui s'est toujours tué sur la situation du Congo. Enfin, c'était un gros paradoxe que je n'arrive toujours pas à saisir. Et jusqu'alors, en fait, quand on discute avec des amis autour de la question politique et des auteurs, des écrivains congolais, Dongala, Alema Bankou, et quand il s'agit de parler de Henri Lopez, on a un gros point d'interrogation parce que on ne sait pas si la littérature est une bulle dans laquelle vous vous êtes mis et cela vous a, enfin, vous a éloigné en même temps et de la situation du Congo. Je ne sais pas si je parviens à me faire comprendre. C'est assez compliqué pour moi de l'exprimer parce que, enfin, j'ai tellement d'images comme ça qui me reviennent en tête. Et vous avez été, enfin, le plus jeune ministre du Congo, je pense, à l'âge de à 38 ans. Et vous avez connu tout. Enfin, vous avez été un témoin de cette histoire du Congo politique. Et je n'ai jamais aussi compris vos liens avec Denis Sassou Nguesso, dont vous avez été, enfin, l'ambassadeur. Et voilà, c'est des questions comme ça que je pose et c'est toujours un grand silence au fait, un grand point d'interrogation que je n'ai jamais trouvé la réponse et enfin je vous la pose, c'est plus un ressenti, c'est plus voilà, c'est des impressions comme ça qui découlent comme ça que je vous adresse.
Moi-même, j'ai pas la réponse. Mais peut-être pour essayer de trouver un fil conducteur dans mon attitude, je dirais la chose suivante. La politique avait une place dans notre vie, dans ma jeunesse, dans mon adolescence, qu'elle n'a plus à l'heure actuelle. C'est-à-dire qu'on était obligé. Pas coercition, mais d'être politique. Pourquoi? Je nais, moi, sous la colonisation. Une colonisation qui est, entre autres, le racisme, l'apartheid. Brazzaville avait ses quartiers blancs. Ce quartier noir. Et j'arrive en France, et là je découvre qu'il n'y a plus ces séparations, que je ne suis pas victime du racisme qu'il y avait au pays. J'étais un gamin, j'avais 11 ans. Et donc, tout ça est confus dans mon esprit. Et c'est à l'adolescence, en rencontrant d'autres compatriotes à Paris, moins à Nantes, parce qu'on était peu nombreux, que je prends conscience et que, naturellement, j'entre dans le mouvement pour la libération, de mon pays. Et donc, il n'y avait pas ceux qui ne faisaient pas de politique, on y était tous dedans. Et donc, en rentrant au pays, j'étais avec mes camarades. Mais, en même temps, j'avais mon itinéraire personnel, dont je me suis rendu compte après. Je vous dis, moi j'étais marxiste à l'époque, sous l'influence d'un professeur qui est mort il y a 2 ans, qui était mon mentor même, parce que c'était un intellectuel de grand calibre. Ce n'était pas le marxisme de la propagande, mais de la réflexion philosophique. Par exemple, sur une question, mettons la mort, il commençait, il nous obligeait à comprendre la vision, ce qu'il appelait idéaliste, les Platon, Socrate, etc. Et on allait, et on n'avançait pas tant qu'on n'avait pas compris tel philosophe, jusqu'à arriver au moment où la critique marxisme par rapport à... Mais, si vous voulez, on s'appropriait toute cette philosophie-là. Et donc, je dis qu'à l'intérieur de ma vie politique, j'avais, moi, cette réflexion personnelle. Je me disais, mais à un moment, je me rends compte que les Lénine, Marx, pour être honnête, il était trop ennuyeux. J'ai peu lu de Marx, Lénine, tout ça, ne m'aidait pas à comprendre la situation de mon pays. J'étais au pouvoir, mais c'était pas le pouvoir qui m'intéressait. J'ai jamais été dans un appareil. J'étais pas un homme d'appareil, plutôt, je m'exprime mal. Et je m'aperçois que tout ce que je pensais être, mes guides spirituels, mes mentors, ne m'aidaient pas à comprendre mon pays. Mais je retourne à mes livres, entendez bien, du Moyen-Âge européen pour comprendre la société congolaise, à Balandier, etc. Je trouve que il m'aide plus à comprendre. Et c'est cet itinéraire intérieur que j'ai fait. Et on me demande souvent comment j'ai échappé à des purges, etc. Mais je crois que c'est que j'ai jamais appartenu. Il y avait des groupuscules qui se créaient, même à l'intérieur d'un parti unique, n'est-ce pas ? Et moi, je poursuivais toujours ma réflexion personnelle. Alors pourquoi j'ai pas fait un coup d'éclat et parti ? Bon, parce que je me sentais fragile. En fait, j'étais à la recherche de moi-même et étant métisse par plusieurs côtés, non pas simplement par la couleur de ma peau, mais par le fait que j'avais eu une éducation européenne mêlée à une éducation traditionnelle qui était moins, qui pesait moins, j'ai dû faire des fuites en avant pour m'affirmer mon africanité. Et donc, j'ai dû certainement me fourvoyer à plusieurs moments. Je ne considère pas que ma vie est exemplaire. Je vous demande pas de la copier, ni de la donner en exemple. Mais je l'ai vécu. Avec des erreurs. Avec le plus de sincérité vis-à-vis de moi-même.
D'autres questions dans la salle. Vous évoquiez la recherche de soi. Quel rôle, finalement, l'écriture a-t-elle pu jouer à différents moments de votre trajectoire dans cette recherche de vous-même, cette quête existentielle que vous évoquez ?
L'écriture, c'est ma prière laïque.
Et est-ce que il y aurait d'autres questions encore dans oui.
Voilà, merci beaucoup. C'est pour moi un grand plaisir de rencontrer aujourd'hui.
Pardon, parlez fort parce que c'est pour moi un grand plaisir
de rencontrer donc Ariel Lopez, qui a une vaste œuvre littéraire et en tant qu'étudiant sénégalais, donc nous n'avons pas manqué en tout cas à lire quelques de ses ouvrages, notamment Le Pleurer Rire, qui a été au programme de licence. Donc j'en profite pour me présenter, je suis doctorant sénégalais à l'Université Serhanta Diop de Dakar. Alors, je vais vous poser une petite question qui a trait en tout cas à la place qu'occupe la femme dans la production donc, de Ariel Lopez. Alors, j'aimerais savoir la place que vous avez attribuée en tout cas à la femme. Est-ce que ce choix-là, comment vous pouvez le justifier un peu?
Le justifier, non. Mais il y a un peu une réponse dans le film. Bon, c'est de l'influence de... Bon, d'abord dans ma vie personnelle. Je suis ma grand-mère n'a eu que 3 enfants, 3 filles. Ma mère n'a eu que 4 enfants, 3 filles d'un second mariage et le seul garçon, c'est moi. Donc, dans ma vie, j'étais entouré des filles et j'étais sensible. J'étais presque élevé par des femmes. Ensuite, tout cela, qui a joué sur l'autre, c'est difficile à dire, mais il y a effectivement la rencontre d'Aragon, de l'œuvre d'Aragon, qui joue un très grand rôle et qui... mais son influence sur moi, je vais citer une parole, c'est Saint Augustin, je crois, qui dit que Dieu lui dit « Tu ne me chercherais pas si tu ne m'avais pas déjà trouvé. » Eh bien, c'est un peu ça. J'ai cherché chez Aragon parce que je l'avais déjà trouvé. Et puis, je constatais qu'est-ce que je voyais dans la vie. Par exemple, les étudiants à l'époque, les étudiants africains, il y avait pratiquement pas de femmes, de jeunes filles. Vous voyez, par exemple, au Congo, il y en avait 2. Hélène Bobutu et Méniali. Et c'était les seules étudiantes qu'il y avait congolaises pendant très longtemps. Donc, j'étais sensible à tout cela. Et quand je rentre en Afrique, je suis un peu, comment dirais-je, déphasé. Je suis étonné même par l'attitude des femmes vis-à-vis d'elles-mêmes. Pour vous donner un exemple, Emeni Alide, que je citais tout de suite, était l'une de nos premières députées femmes. Elle va à l'Assemblée nationale et elle dépose un projet de loi contre la polygamie. Eh bien, elle déclenche une bronca de femmes qui se disent, mais qu'est-ce qu'elle croit? Elle veut un mari pour elle seule. Il faut les partager. Il y a un malentendu. N'est-ce pas? Bref, tout cela m'a emmené à réfléchir, d'écrire un peu les femmes sans apporter de solution. Parce que l'écrivain n'apporte pas de solution, il pose des questions.
Est-ce qu'il y aurait d'autres questions ? Alors, je vous remercie Henri Lopez d'avoir prolongé notre entretien ici aujourd'hui. Je remercie Clarifa aussi, à qui on organise le séminaire des écrivains et leur bibliothèque. Merci beaucoup.
Et moi aussi, je vous remercie. Je ne sais pas si je vais aller cela, mais en tous les cas, je redis encore à Clarifa et à Céline, pardon, toute ma reconnaissance pour ce document. Peut-être que nous nous sommes intéressés, étant partie prenante, nous n'en pensons que du bien, mais je pense que c'est un document au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que ceux qui voudront dire du bien ou du mal de moi pourront se référer à cet entretien.
Merci en tout cas, et je remercie aussi Thomas Guiffard hein, qui avait fait la prise de son et les images hein, chez vous, et puis Frédéric Delozer qui avait travaillé au montage. Merci.